la société d'abondance originelle. Quelle généralisation pouvons-nous néanmoins faire à propos de la vie dans le monde pré-agricole? On peut dire, apparemment sans crainte de se tromper, que l'immense majorité vivait en petites bandes d'une douzaine d'individus, d'une centaine au plus, et que tous ces individus étaient des humains. Ce dernier point mérite qu'on y insiste, parce que c'est loin d'être évident. La plupart des membres des sociétés agricoles et industrielles sont des animaux domestiqués. Ils ne sont pas les égaux de leur maître, bien entendu, mais ils n'en sont pas moins membres. L'actuelle société néo-zélandaise se compose de 4,5 millions de sapiens et de 50 millions de moutons. Cette règle générale n'admettait qu'une seule exception, les chiens. Le chien est le premier animal qu'Homo sapiens ait domestiqué, et ce, avant la révolution agricole. Les experts ne sont pas d'accord sur la date exacte, mais nous avons des preuves incontestables de la domestication des chiens il y a près de 15 000 ans. Peut-être avaient-ils rejoint la meute humaine des milliers d'années auparavant. On utilisait les chiens pour la chasse et le combat, mais aussi pour donner l'alarme contre les bêtes sauvages et les intrusions humaines. Au fil des générations, l'évolution concomitante des chiens et des hommes leur permit de communiquer fort bien les uns avec les autres. Les chiens les plus attentifs aux sentiments et aux besoins de leurs compagnons humains recevaient des soins et de la nourriture supplémentaire, et ils avaient de meilleures chances de survivre. Dans le même temps, les chiens apprirent à manipuler les hommes pour satisfaire leurs besoins. Une cohabitation de 15 000 ans forgea entre hommes et chiens un lien de compréhension bien plus profond qu'entre les hommes et toute autre espèce d'animal. Les chiens morts étaient parfois inhumés cérémonieusement comme les êtres humains. On a d'ailleurs découvert une tombe vieille de 12 000 ans dans le nord d'Israël contenant le squelette d'une femme de 50 ans et celui d'un chiot. La main gauche de la femme était posée sur le chien, comme pour indiquer un lien émotionnel. Il est bien entendu d'autres explications possibles. Peut-être le chiot était-il un cadeau destiné au portier de l'autre monde. Les membres d'une même bande se connaissaient très intimement et tout au long de leur vie étaient entourés d'amis et de parents. La solitude et l'intimité étaient rares. Les bandes voisines se disputaient probablement les ressources, voire se combattaient, mais elles avaient aussi des contacts amicaux. Elles échangeaient des membres, chassaient ensemble, troquaient des articles de luxe rares, cimentaient des alliances politiques et célébraient des fêtes religieuses. Marque distinctive importante de l'Homo sapiens, cette coopération donnait à celui-ci un atout crucial sur toutes les autres espèces humaines. Les relations avec les bandes voisines étaient parfois assez étroites pour former une seule tribu, partageant une langue commune, des mythes communs, ainsi que des normes et des valeurs communes. Reste qu'il ne faut pas surestimer l'importance de ces relations extérieures. Même si, en temps de crise, les bandes voisines se rapprochaient et s'il leur arrivait de se rassembler pour chasser ou banqueter ensemble, elles passaient encore le plus clair de leur temps dans l'isolement complet et une indépendance totale. Le commerce se limitait surtout à des articles de prestige, tels que les coquillages, l'ambre et les pigments. Rien n'indique qu'elles échangeaient des produits alimentaires de base, tels que fruits ou viande, ou que, pour survivre, une bande devait importer les produits d'une autre. Les relations sociopolitiques restaient aussi sporadiques. La tribu n'était pas un cadre politique permanent, et même s'il existait des lieux de rencontre saisonniers, il n'y avait pas de ville ni d'institution permanente. L'individu moyen passait de longs mois sans voir ni entendre aucun autre humain que ceux de sa bande. Au cours de sa vie entière, il ne rencontrait pas plus de quelques centaines d'hommes. La population sapiens était clairsemée sur d'immenses territoires. Avant la révolution agricole, la population humaine de toute la planète était inférieure à celle du Caire aujourd'hui. La plupart des bandes de sapiens vivaient sur la route, cheminant d'un lieu à l'autre en quête de vivres. Leurs déplacements étaient dictés par les changements de saison, les migrations annuelles des animaux et les cycles de croissance des plantes. Habituellement, elles allaient et venaient sur le même territoire, de quelques dizaines à plusieurs centaines de kilomètres carrés. À l'occasion, les bandes s'aventuraient hors de leur chasse gardée pour explorer de nouvelles terres. Du fait de catastrophes naturelles, de conflits violents ou de pressions démographiques ou encore à l'initiative d'un chef charismatique. Ces périples ont été le moteur de l'expansion humaine à travers le monde. Si une bande de fourrageurs se scindait tous les 40 ans et que le groupe scissionniste avait migré vers un nouveau territoire, à 100 km plus à l'est, il aurait fallu 10 000 ans pour couvrir la distance séparant l'Afrique de l'Est de la Chine. Dans certains cas exceptionnels, quand les ressources alimentaires étaient particulièrement riches, les bandes établissaient des camps permanents. Les techniques pour sécher, fumer et, dans les régions arctiques, congeler la nourriture permettaient aussi de rester plus longtemps. Qui plus est, le long des côtes et des rivières riches en fruits de mer et en gibier d'eau, les hommes installèrent des villages de pêche. Ce sont les premières implantations permanentes de l'histoire, bien antérieures à la révolution agricole. Les villages de pêche ont pu apparaître sur les côtes des îles indonésiennes dès 45 000 ans. Sans doute, est-ce la base à partir de laquelle Homo sapiens lança sa première aventure transocéanique, l'invasion de l'Australie. Dans la plupart des habitats, les bandes sapiens se nourrissaient de façons irrégulières et opportunistes. Elles ramassaient les termites, cueillaient les baies, déterraient des racines, traquaient des lapins et chassaient bisons et mammouths. Nonobstant l'image populaire du chasseur, la cueillette demeurait la principale activité du sapiens et lui fournissait l'essentiel de ses calories ainsi que ses matières premières comme le silex, le bois ou le bambou. Les sapiens n'étaient pas seulement en quête de nourriture et de matériaux, ils étaient aussi à l'affût de connaissances. Pour survivre, il leur fallait une carte mentale détaillée de leur territoire. Afin de maximiser l'efficacité de leur quête quotidienne de nourriture, ils devaient se renseigner sur les cycles de croissance de chaque plante et les habitudes de chaque animal. Il leur fallait savoir quels étaient les aliments les plus nourrissants, lesquels rendaient malades ou avaient des effets curatifs. Ils devaient connaître le cycle des saisons et savoir repérer les signes précurseurs d'un orage ou d'une sécheresse. Ils étudiaient chaque ruisseau, chaque noyer, chaque caverne d'ours et chaque gisement de silex du voisinage. Chaque individu devait savoir faire un couteau en silex, repriser un manteau déchiré, tendre un piège à un lapin, faire face à des avalanches, à des morsures de serpents ou à des lions affamés. Il fallait des années d'apprentissage et de pratique pour maîtriser chacune de ces compétences. Il suffisait de quelques minutes à un fourrageur moyen pour transformer un silex en pointe de lance. Vouloir en faire autant nous exposerait à un échec lamentable. La plupart d'entre nous n'ont aucune idée de la façon de faire sauter des éclats de silex ou de basalte et ne possèdent pas les talents moteurs nécessaires pour les utiliser précisément. Autrement dit, le fourrageur moyen avait une connaissance plus large, plus profonde et plus variée de son environnement immédiat que la plupart de ses descendants modernes. De nos jours, la grande majorité des habitants des sociétés industrielles n'a pas besoin de savoir grand-chose du monde naturel pour survivre. Que faut-il vraiment savoir de la nature pour être informaticien, agent d'assurance, professeur d'histoire ou ouvrier? Il faut être féru dans son tout petit domaine d'expertise, mais pour la plupart des nécessités de la vie, on s'en remet aveuglément à l'aide d'autres connaisseurs, dont le savoir se limite aussi à un minuscule domaine d'expertise. La collectivité humaine en sait aujourd'hui bien plus long que les bandes d'autrefois. Sur un plan individuel, en revanche, l'histoire n'a pas connu homme plus averti et plus habile que les anciens fourrageurs. De fait, tout indique que la taille du cerveau moyen des sapiens a bel et bien diminué depuis l'époque des fourrageurs. Survivre en ce temps-là nécessitait chez chacun des facultés mentales exceptionnelles. L'avènement de l'agriculture et de l'industrie permit aux gens de compter sur les talents des autres pour survivre et ouvrit de nouvelles niches pour imbéciles. On allait pouvoir survivre et transmettre ses gènes ordinaires en travaillant comme porteur d'eau ou sur une chaîne de montage. Les fourrageurs maîtrisaient non seulement le monde environnant des animaux, des plantes et des objets, mais aussi le monde intérieur de leur corps et de leurs sens. Ils étaient attentifs au moindre frémissement d'herbe pour repérer la présence d'un serpent. Ils observaient attentivement le feuillage des arbres pour y découvrir des fruits, des ruches ou des nids d'oiseaux. Ils se déplaçaient moyennant un minimum d'efforts et de bruit et savaient s'asseoir, marcher et courir de la manière la plus agile et la plus efficace qui soit. L'usage varié et constant de leur corps faisait d'eux de véritables marathoniens. Ils possédaient une dextérité physique qui est aujourd'hui hors de notre portée, même après des années de yoga ou de tai-chi. Si le mode de vie des chasseurs-cueilleurs différait sensiblement d'une région ou d'une saison à l'autre, dans l'ensemble, les fourrageurs jouissaient apparemment d'un mode de vie plus confortable et gratifiant que la plupart des paysans, bergers, travailleurs et employés de bureau qui leur succédèrent. Dans les sociétés d'abondance actuelles, on travaille en moyenne 40 à 45 heures par semaine. Dans le monde en voie de développement, la moyenne hebdomadaire peut aller jusqu'à 60, voire 80 heures. Les chasseurs-cueilleurs qui vivent de nos jours dans les habitats les moins hospitaliers, comme le désert du Kalahari, ne travaillent en moyenne que 35 à 45 heures par semaine. Ils ne chassent qu'un jour sur trois et ne glanent que 3 à 6 heures par jour. En temps ordinaire, c'est suffisant pour nourrir la bande. Il est fort possible que les anciens chasseurs-cueilleurs, habitant des zones plus fertiles que le Kalahari, passaient encore moins de temps à se procurer vivres et matières premières. De surcroît, côté corvée domestique, leur charge était bien plus légère. Ni vaisselle à laver, ni aspirateur à passer sur les tapis, ni parquet à cirer, ni couche à changer, ni facture à régler. L'économie des fourrageurs assurait à la plupart des carrières plus intéressantes que l'agriculture ou l'industrie. De nos jours, en Chine, une ouvrière quitte son domicile autour de 7 heures du matin, emprunte des rues polluées pour rejoindre un atelier clandestin où elle travaille à longueur de journée sur la même machine. 10 heures de travail abrutissant avant de rentrer autour de 19 heures faire la vaisselle et la lessive. Voici 30 000 ans. Une fourrageuse pouvait quitter le camp avec les siens autour de 8 heures du matin. Ils écumaient les forêts et les prairies voisines, cueillant des champignons, déterrant des tubercules comestibles, attrapant des grenouilles ou, à l'occasion, détalant devant les tigres. Ils étaient de retour au camp en début d'après-midi pour préparer le repas. Cela leur laissait tout le temps de bavarder, de raconter des histoires, de jouer avec les enfants ou de trainasser. Bien entendu, parfois, des tigres les attrapaient ou des serpents les mordaient, mais ils n'avaient pas à s'inquiéter d'accidents de la circulation ou de pollution industrielle. La plupart du temps, dans la plupart des coins, le fourrage assurait une nutrition idéale. Ce n'est guère surprenant. Le régime était le même depuis des centaines de milliers d'années et le corps humain s'y était bien adapté. L'examen des squelettes fossiles nous apprend que les anciens fourrageurs étaient moins exposés à la famine ou à la malnutrition et qu'ils étaient généralement plus grands et en meilleure santé que leurs descendants cultivateurs. L'espérance de vie moyenne tournait apparemment autour de 30 à 40 ans, mais c'était largement dû à la forte incidence de la mortalité infantile. Les enfants qui franchissaient le cap des premières années périlleuses avaient de bonnes chances de parvenir à 60 ans, voire pour certains à 80 ans et plus. Chez les fourrageurs modernes, les femmes de 45 ans gardent une espérance de vie de 20 ans de plus, et entre 5 et 8% de la population a plus de 60 ans. Le secret de la réussite des fourrageurs, ce qui les protégeait de la famine et de la malnutrition, était la diversité de leur alimentation. Les paysans ont tendance à avoir une alimentation très limitée et déséquilibrée. Dans les temps prémodernes, notamment, la population agricole trouvait l'essentiel de ses calories dans une seule culture, blé, pommes de terre ou riz, à laquelle il manque des vitamines, des minéraux ou d'autres éléments nutritifs dont les hommes ont besoin. Dans la Chine traditionnelle, le paysan type mangeait du riz au petit-déjeuner, au déjeuner et au dîner. Avec un peu de chance, il espérait manger la même chose le lendemain. En revanche, les anciens fourrageurs consommaient régulièrement des douzaines d'autres aliments. L'ancêtre du paysan, le fourrageur, pouvait bien manger des baies et des champignons au petit-déjeuner, des fruits, des escargots et une tortue marine à midi, et du lapin aux oignons sauvages le soir. Cette diversité aidant, il recevait tous les nutriments indispensables. De surcroît, n'étant pas à la merci d'un seul type d'aliment, ils étaient moins exposés si celui-ci venait à manquer. Les sociétés agricoles sont ravagées par la famine si une sécheresse, un incendie ou un tremblement de terre ruinent la récolte annuelle de riz ou de pommes de terre. Les sociétés de fourrageurs n'étaient guère à l'abri des catastrophes naturelles et ont souffert de périodes de disette et de famine. Mais elles étaient généralement capables de surmonter plus aisément ces calamités. Si elles perdaient certaines de leurs denrées alimentaires de base, elles pouvaient cueillir ou chasser d'autres espèces, voire se diriger vers une région moins touchée. Les anciens fourrageurs souffraient aussi moins des maladies infectieuses. La plupart de celles qui ont infesté les sociétés agricoles et industrielles, variole, rougeole et tuberculose, trouvent leurs origines parmi les animaux domestiqués et n'ont été transmises à l'homme qu'après la révolution agricole. Les anciens fourrageurs qui n'avaient domestiqué que les chiens échappaient à ces fléaux. De surcroît, dans les sociétés agricoles et industrielles, la plupart des gens vivaient dans des colonies de peuplement permanentes et peu hygiéniques, pépinières idéales des maladies. Les fourrageurs parcouraient leur territoire en petites bandes où aucune épidémie ne pouvait se développer. Une alimentation saine et variée, une semaine de travail relativement courte et la rareté des maladies infectieuses ont conduit de nombreux experts à parler des sociétés de fourrageurs pré-agricoles comme des sociétés d'abondance originelle. Mais on aurait tort d'idéaliser la vie de ces hommes. S'ils vivaient mieux que la plupart des habitants des sociétés agricoles et industrielles, leur monde pouvait être encore rude et impitoyable. Les périodes de pénurie et d'épreuves n'étaient pas rares. La mortalité infantile restait élevée. Des accidents, qui seraient mineurs aujourd'hui, pouvaient facilement entraîner la mort. La plupart profitaient probablement de l'intimité des bandes en vadrouille. Mais les malheureux, en butte à l'hostilité ou à la moquerie de leurs comparses, souffraient probablement beaucoup. Il arrive que les fourrageurs modernes abandonnent, voire tuent les vieux ou les invalides incapables de suivre la bande. Les bébés ou enfants indésirables sont parfois tués. Et il est même des cas de sacrifice humain d'inspiration religieuse. Les Haché, peuple de chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans les jungles du Paraguay jusque dans les années 1960, offrent un aperçu du monde des fourrageurs dans son côté sombre. Quand un membre apprécié de la bande mourait, la coutume des Haché voulait que l'on tue une fillette et que les deux soient enterrés ensemble. Des anthropologues qui ont interrogé les Haché rapportent un cas d'abandon d'un homme d'âge mûr malade, incapable de suivre les autres. Ils le laissèrent sous un arbre. Les vautours se perchèrent au-dessus de sa tête dans l'attente d'un repas copieux. Mais l'homme récupéra et, marchant d'un pas vif, réussit à retrouver les siens. Son corps étant couvert de fientes d'oiseaux, cela lui valut le surnom de « chieur de vautour ». Quand une vieille hachée devenait un fardeau pour le reste de la bande, un des jeunes hommes se glissait furtivement derrière elle et la tuait d'un coup de hache dans la tête. Un hachée répondit à la curiosité des anthropologues en leur racontant ses premières années dans la jungle. « C'est moi qui tuais les vieilles, moi qui tuais mes tantes. Les femmes avaient peur de moi. Maintenant, ici, avec les blanches, je suis devenu faible. » Les bébés nés sans cheveux, jugés sous-développés, étaient tués sur le champ. Une femme raconta que son premier bébé fut tué parce que les hommes de la bande ne voulaient pas d'une autre fille. Une autre fois, un homme tua un petit garçon parce qu'il était de mauvaise humeur et que l'enfant pleurait. Un autre enfant fut enterré vivant parce que c'était drôle et cela fit rire les autres enfants. Mais gardons-nous de juger trop rapidement les Haché. Les anthropologues qui ont passé des années parmi eux rapportent que les violences entre adultes étaient rares. Hommes et femmes étaient libres de changer de partenaire à volonté. Ils souriaient et riaient tout le temps, n'avaient pas de hiérarchie ni de chef et fuyaient généralement les personnalités dominatrices. Extrêmement généreux de leurs rares biens, ils n'étaient obsédés ni par la réussite ni par la richesse. Ce qu'ils prisaient le plus dans la vie, c'était les bonnes relations sociales et les amitiés de qualité. L'élimination des enfants, des malades ou des personnes âgées était pour eux ce que l'avortement et l'euthanasie sont pour nombre d'entre nous. Il faut aussi rappeler que les Haché étaient traqués et tués sans merci par les fermiers uruguayens. La nécessité d'échapper à leurs ennemis explique probablement l'attitude exceptionnellement sévère envers quiconque pouvait peser sur la bande. La vérité est que, comme toutes les sociétés humaines, la société Haché était très complexe. Évitons de la diaboliser ou de l'idéaliser sur la base de connaissances superficielles. Ils n'étaient ni anges, ni démons, des hommes, tout comme les anciens chasseurs-cueilleurs.